Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Lecture par tous, 8e. Ouais, on en est au 8e numéro de notre émission. Alors, nous allons rencontrer, encore une fois, on l'a déjà fait avec d'autres, des libraires. Et oui, c'est pas rien une librairie. Alors, dans une grande ville comme Montpellier, des libraires, il y en a. Mais quand c'est une librairie qui ouvre dans une ville de 5000 habitants, Sommières, c'est un événement. Ça y est, ils ont ouvert, elles ont ouvert, les libraires, la petite librairie à Sommières. Et quelques jours avant l'ouverture, nous sommes allés les rencontrer. Des libraires, elles sont trois. Commençons par la première.
Donc bonjour, je suis Laure Vézillier, donc c'est moi qui suis à l'initiative du projet donc d'ouverture de la librairie. Je suis actuellement en disponibilité de l'éducation nationale, puisque j'étais prof de lettres classiques pendant 18 ans. Et l'idée de devenir libraire me trottait dans la tête depuis un petit moment. J'avais régulièrement des remarques d'amis sur le fait que quand je parlais d'un bouquin, ça donnait envie de le lire. J'ai eu aussi des retours d'élèves qui étaient plutôt enthousiastes par rapport aux lectures que je pouvais proposer, notamment en littérature jeunesse, puisque j'en lisais beaucoup. Et donc, moi qui n'avais jamais envisagé d'autre carrière que celle de l'éducation nationale, je me suis dit que c'était peut-être un petit grain de folie que d'envisager de faire autre chose, que de quitter le confort du statut de fonctionnaire avec plein de vacances pour une aventure qui était plutôt beaucoup plus houleuse et moins plate et morne que celle de l'éducation nationale. Et me voilà donc embarquée. Donc pour assurer mes arrières, j'ai fait des stages en librairie. J'ai fait une formation au métier de libraire à Aix-en-Provence, donc qui est l'ABC du métier de libraire. Donc c'est un concentré en 6 jours de ce que les étudiants font en 2 ans. Mais ça ne m'a pas dégoûtée, même si on a mangé beaucoup de chiffres, et que le métier de libraire est un métier aussi de gestionnaire, hein, c'est énormément de gestion. Donc j'ai appris le métier en faisant des stages dans diverses librairies de la région, et je me suis lancée dans cette aventure depuis mes premiers congés de juillet jusqu'à maintenant, et me voilà libraire à quelques jours de l'ouverture, et très contente d'être là-dedans, puisque j'ai, je pense, réussi à faire un magasin qui ressemble à ce dont j'avais rêvé. Un lieu assez convivial, plutôt bien rempli. Et voilà, en tout cas, c'est pour le moment le retour qu'on a des gens qui passent et des curieux qui pointent le bout de leur nez dans la boutique.
Trois libraires et maintenant la deuxième.
Moi, je suis transfuge de la librairie ou de la bibliothèque au choix, puisque j'ai été... là, je suis à la retraite de bibliothécaire. Et j'ai quand même eu une parenthèse de libraire pendant 12 ans. Mais c'était une librairie scolaire, donc ça n'a quasiment rien à voir avec ce qu'il y a maintenant. Je me rappelle d'un article dans Livre Hebdo, quand j'étais libraire, où le journaliste disait que pour être libraire, il faut être non seulement un gestionnaire avisé, d'une intelligence fine, un découvreur de talent, plein de choses très très difficiles à combiner. Et j'aurais jamais imaginé à ce moment-là être à nouveau libraire après avoir été bibliothécaire, parce que c'est quand même plus confortable, on va dire. Mais ma belle-fille, donc, que vous venez d'entendre, a beaucoup échangé avec moi. On a échangé beaucoup de livres et beaucoup de lectures avec passion et tout. Donc, quand elle m'a parlé de son projet, j'ai J'ai pas douté une seconde que ça pouvait être réalisé.
Trois libraires. La troisième n'était pas là, mais vous allez en entendre parler quand même.
Alors, la troisième personne s'appelle Michel. Alors, Michel, c'est une rencontre, un coup de foudre amical, puisqu'elle était prof d'anglais dans le collège dans lequel j'étais. Elle est venue faire un remplacement de quelques mois, et c'est vrai qu'on a tout de suite accroché. Et quand j'ai eu cette idée, c'est vrai que c'est une des personnes pour lesquelles je me suis dit, je suis sûre que si je lui en parle, elle sera de la partie. Et quand je lui ai parlé de mon projet de faire une librairie, des étoiles ont brillé dans ses yeux. Elle m'a dit, mais oui, super. Donc elle a un temps partiel. Donc elle est toujours prof d'anglais et elle a réussi, donc avec l'accord de son chef d'établissement, donc à récupérer une journée complète, sa journée du vendredi. Et donc elle viendra le vendredi et le samedi au magasin. Pour partager cette belle aventure et nous faire profiter, parce que c'est une très grande, une dénicheuse de pépites. Voilà, elle lit énormément. On avait aussi, comme l'a dit Claire, beaucoup échangé en termes de coups de cœur littéraires. C'est toujours, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'affinités, notamment en lecture, et c'est une aussi grande consommatrice de littérature jeunesse. Donc voilà, on avait beaucoup échangé, elle est pareil, très enthousiaste à l'idée de se lancer dans ce projet.
La petite librairie, quel drôle de nom. Pourquoi ce nom ?
Alors, trouver un nom, ça a été un peu compliqué, parce que moi j'aime bien les choses un peu rigolotes et un peu farfelues. Et quand j'avais des idées, que je les soumettais, on me disait que c'était trop farfelu. J'ai pensé à des idées saugrenues, comme Le Petit Coin, par exemple. Hein. Donc, je me voyais déjà réceptionner les appels en disant « Au Petit Coin, bonjour !» Mais bon, voilà, on m'a expliqué que c'était pas possible. Et finalement, c'est venu par hasard. C'est une amie qui s'appelle Jeannette qui, un soir d'apéritif, me dit « Alors, ce nom de librairie, t'as trouvé ?» Je dis « Bah non, je tourne en rond, j'arrive pas. » J'avais plein d'idées stupides et elle me dit, j'ai dit j'aimerais bien trouver un titre avec le mot petite dedans parce que l'image que j'ai aussi envie de donner du magasin, et c'est toujours ce que j'ai défendu aussi pour ma propre personne, c'est de ne pas se prendre au sérieux et tout en proposant, moi j'aime beaucoup l'humour, j'ai fonctionné essentiellement avec ça, grâce à ça on va dire dans l'éducation nationale. Et j'avais envie de quelque chose d'un peu drôle. Et puis voilà, c'est elle qui m'a trouvé le titre, qui m'a dit la petite librairie. C'est tombé comme une évidence et c'est devenu la petite librairie. Ça fait l'unanimité.
Choisir, c'est le dilemme des libraires. Quel livre va-t-on mettre dans les rayons ?
Le métier de libraire est un métier qui est fait de choix. Donc on ne peut pas tout avoir, mais on en a, je crois, beaucoup quand même.
Alors, vous dites choix. Quels sont les critères de vos choix ? Est-ce que c'est... la demande du supposé du public, ou est-ce que il y a des choix un peu plus risqués, entre guillemets, un peu atypiques ?
En fait, le choix, ça a été de ne privilégier personne. Enfin, pour le fond, on a choisi de les titres qu'on avait envie de défendre, quels qu'ils soient, même s'ils avaient eu des très mauvaises ventes, etc. Mais on est obligé de proposer aussi des choses qui, a priori, qu'on ne lira jamais, qui, a priori, nous intéressent pas et que, voilà. Mais c'est un public. Et donc, ce public-là, on ne peut pas le snober. Donc, il faut l'avoir. On ne veut pas être non plus élitiste par rapport aux gens qui passent.
Oui, puis c'est peut-être aussi répondre à cette demande. Et puis, une fois que les lecteurs sont là, essayer de leur suggérer et de découvrir d'autres choses.
Ça, c'est ce que je faisais quand j'étais bibliothécaire, en fait. C'est d'avoir un choix, parce qu'en plus, on avait des gros budgets à l'aise. Donc, on pouvait se permettre d'avoir beaucoup de choses qui étaient demandées. Et à côté de ça, de faire...
Alors,
de partager.
On a un téléphone qui sonne.
C'est du magasin.
Pas de panique, c'est pas l'enregistrement qui bug, c'est que le téléphone sonne, tout simplement. Alors oui.
Et tout à l'heure, on a parlé de l'aménagement, et moi, j'aurais bien mis un S à littérature, parce que le polar, la SF, etc., c'est de la littérature. Enfin, certains, c'est de la littérature, d'autres peut-être moins, peut-être pas. Mais la spécificité des genres, c'est un problème très difficile, même en bibliothèque, c'est un problème difficile parce que est-ce que on écarte, alors on fait un genre historique, un genre sentimental, un genre science-fiction, et on sépare comme ça les choses. Et ce qui fait que la proximité, elle est partie et qu'on ne peut pas découvrir dans les rayons quelque chose de différent quand on est en train de chercher rien, simplement de regarder.
Bon, les livres qui sont dans les rayons, il faut les ranger, il faut les classer, il y a des genres, ouais. Bon.
Un livre de Jojo Moyet, c'est oui. Ça, qui s'appelle « Avant toi », qu'on a découvert, qui nous a fait beaucoup pleurer, donc il nous a fait...
qu'on a partagé de nombreuses fois.
Hein. Oui, voilà. et chaque fois, les gens, ne sachant pas que c'était classé dans un genre comme ça, sentimental, ont réagi de façon peut-être plus sincère, plus évidente.
Et c'est dommage, c'est un film
c'est bien écrit.
L'adaptation d'une adaptation qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique des plus mièvres, ce qui est fort dommage.
Oui, parce que le texte original est très
vraiment
très,
très, très bon.
Voilà, donc il y a des choses comme ça, des incohérences dans le fait de classer les livres par genre.
Dans une librairie, on peut faire d'autres choses. Librairie, papeterie, c'est un grand classique. Mais librairie, chaussetterie.
Alors ensuite, donc, on est dans la deuxième partie du magasin, un peu plus grande que la première. Alors, qui compte sur la gauche des bacs dans lesquels ont été rangés tous les ouvrages concernant la cuisine et le vin. C'est un gros rayon chez nous. Alors, je suis moi-même une grande amatrice de livres de cuisine. Je cuisine beaucoup. Enfin, je cuisinais beaucoup. Là, en ce moment, j'ai plus trop le temps, mais ça va revenir. Donc tout ce qui est cuisine et vin, et c'est une partie du magasin dans laquelle on a concentré toute la papeterie et tous les objets un peu fantaisie vendus dans le magasin. Alors c'est vrai que c'est une librairie, mais c'est aussi une chaussetterie, puisqu'on vend aussi des chaussettes fantaisie. On vend des tirelires, des réveils un peu vintage, tout un tas d'objets qu'on a, nous, trouvés très jolis, des trombones en forme de vélo, des étuis à lunettes. Et un de nos principaux fournisseurs est un fabricant français. Donc on a quand même essayé de faire attention à ça. Donc les chaussettes, notamment, sont fabriquées en France. C'est de la fabrication française.
Alors notre libraire à l'initiative de la petite librairie, vous l'avez compris, la jeunesse, la BD, elle aime bien.
On a aussi tout un rayon manga. Le manga est un rayon qui est assez difficile parce qu'il y a des séries énormes qui comptent 87 volumes. Je n'ai pas la place d'avoir les 87 volumes, mais on a fait le choix d'assortir un certain nombre de séries. Alors, pour les jeunes filles, pour les tout-petits, il existe du manga qui est très mignon d'ailleurs. Donc du manga pour les tout-petits, du manga pour les garçons, du manga pour les filles, du manga un peu pour les adultes, mais dans lesquels en général les ados vont aussi piocher. Voilà, alors j'ai été conseillée par des amis de ma fille qui a 15 ans et qui sont de grands consommateurs de manga pour la sélection. Tout à fait, voilà. Moi, j'en ai pas lu énormément, mais j'ai fait des découvertes en manga assez chouettes, quoi. C'est vrai que ça mérite en tout cas d'être... ça fait partie des rayons qu'il faudra que que j'approfondisse, quoi. Le coin des tout-petits avec donc des albums sur roulette, des bacs sur roulette
à hauteur adaptée
qu'on a fait retailler après coup parce que c'est quelque chose à laquelle j'avais pas forcément pensé. Donc qui compte les classiques albums pour les tout-petits, ça va des albums premier âge, on va dire tout carton, Imagier, aux albums, alors dans lesquels figurent bien sûr des titres que je trouve incontournables parce que je suis maman et que j'ai beaucoup lu à mes enfants.
Alors par exemple, dans les incontournables
Par exemple, Max et les Maxi-Monstres. Je trouve que c'est quand même
Maurice
un album.
Sandac, ouais.
Voilà. Bon,
Claude
évidemment,
Desloisirs.
Claude Ponty. Plein de choses. L'école des loisirs est assez incontournable.
Oui, beaucoup de choses de l'école des loisirs, ouais, j'imagine. Voilà. C'est qui est un peu... Avec le Rouergue, l'éditeur de référence jeunesse.
Tout à fait. Mais après, des choses aussi un peu... Pas forcément qui sont pas très connues, mais que je trouve, moi, vraiment très belles. Il y a, par exemple, La Grande Légende de Rama et Sita. Tous les ouvrages sur le... Enfin, on a quelques ouvrages sur le... la légende, les légendes indiennes. Donc des contes, des albums à écouter, du documentaire, voilà, avec des questions diverses qui vont de la philo à des interrogations, bien sûr, sur qui je suis, sur la sexualité aussi, sur un peu tout. Un petit peu de tout, on a essayé d'assortir ça, quelques revues pour les enfants aussi. Ensuite, un bon rayon jeunesse. Alors, on a beaucoup tergiversé sur l'organisation de ce rayon, et finalement, on a choisi de laisser simplement dans une petite valise que vous voyez là, les premières lectures pour les petits lecteurs autonomes. Voilà, des ouvrages spécialement dédiés à cette tranche d'âge-là, à peu près donc 6-7 ans, ou même avant pour les plus éveillés. Et après, on a fait le pari, enfin, bon, c'est un choix, mais de plus faire de distinguo entre la littérature, on va dire, entre 8 et plus de 15 ans. Parce que c'est très compliqué, j'ai été enseignante et je sais que voilà, il y a des élèves qui rentrent en 6e et qui sont déjà de très grands lecteurs, qui sont capables de lire, alors je parle pas forcément de la taille de l'ouvrage, hein, mais des ouvrages assez pointus, et puis il y en a qui sont en 3e et qui lisent toujours pas, ou vraiment des choses très encore beaucoup illustrées, etc. Donc on a fait le choix de mêler tout ça en fait, et de faire juste un classement alphabétique d'auteurs. Donc on a fait ce pari-là, sachant que c'est quand même un rayon dans lequel moi je me sens assez à l'aise, parce que j'en ai beaucoup lu, et puis j'en ai beaucoup fait lire aussi. Donc voilà, le conseil, ça sera pas, c'est pas difficile. Puis bon, on a quand même aussi des collections, des incontournables, évidemment, Harry Potter reste toujours d'actualité, c'est toujours de la qualité. Et puis voilà, puis des petites pépites, moi des coups de cœur jeunesse, j'en ai eu quelques-uns, et donc voilà, je serais ravie de les partager, de les faire découvrir.
Et oui, la BD, c'est plein de choses intéressantes. Tiens, même une recommandation au passage.
Voilà, puis pareil, des coups de cœur en BD. Je suis entourée de gens qui en lisent beaucoup, donc j'ai eu beaucoup de conseils là-dessus. Et j'ai fait, moi, des découvertes aussi. Un océan d'amour, par exemple, c'est un album sans texte. Voilà, de Panachon. Alors, c'est le dessinateur Élu Panneau qu'on retrouve évidemment avec Les Vieux Fourneaux. Hein, c'est le scénariste. Et c'est un album entièrement sans image, sans texte, pardon.
Voilà. On peut le repérer facilement en librairie avec une couverture qui évoque les boîtes de sardines.
Exactement. Puisqu'il est question de sardines et de crêpes bretonnes. Voilà. Et c'est un livre à offrir aux gens qu'on aime parce que c'est une déclaration d'amour. C'est universel, intemporel, et c'est absolument génial, plein de finesse, plein d'humour, et voilà, c'est un livre qui fait du bien.
Voilà, bon, on va le recommander déjà, donc Lupano et Panaccione, Un océan d'amour, et c'est Delcourt qui publie ce livre aux allures de boîte de sardines.
Une librairie, c'est aussi des rencontres, des activités, c'est pas juste un lieu pour vendre et acheter, c'est un lieu où se rencontrer. Programme du mois de décembre.
Puis depuis de nombreuses années, Alain Guyard en conférence. Et je me suis dit, mais ce serait fou qu'il accepte de venir à la librairie, parce que c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Et bah, je l'ai contacté et il était ravi à l'idée de venir soutenir un projet de librairie indépendante sur Sommières, sachant que lui est sur Nîmes. Et comme il vient de sortir un livre là aux éditions Le Dilettante qui s'appelle Natchav, que j'ai dévoré, que j'ai adoré, voilà, je lui ai proposé de venir lui demander s'il accepterait de se prêter à l'exercice de la signature, qui n'est pas forcément un exercice pas très épanouissant, je pense, pour les auteurs, pas forcément évident. Et il a accepté et j'en suis vraiment ravie. Donc il viendra, lui, le 15 décembre au magasin. Faire une séance de dédicace et puis raconter, comme lui le dit si bien, faire une petite couillonnade pour présenter son dernier ouvrage. Et on est en train de préparer d'autres rencontres. Alors comme pour le moment il n'y a rien qui est sûr, je
vous préférez
pas...
Oui, voilà, ne pas vendre la mèche.
Voilà, tout à fait, c'est en train d'être calé, mais il y aura d'autres auteurs de la région qui vont venir aussi pour le mois de décembre. Et ensuite, en laissant un peu de temps pour pouvoir évidemment surmonter la période de Noël, l'idée est quand même d'avoir régulièrement des petits ateliers à destination de publics variés, donc des petits ateliers pour les pour les tout petits autour de lecture d'albums, ça pourra être aussi des projets de création d'ateliers d'art plastique autour d'albums également. Voilà, donc on a tout plein d'idées et il faut que tout ça se concrétise pour l'année à venir.
Allez, on termine avec le petit jeu des recommandations. C'est Claire qui s'y est risquée, comme ça, à brûle-pourpoint.
C'est tellement difficile. Dans toutes ces étagères, il y en a peut-être, je ne sais pas, une trentaine ou une quarantaine ou une cinquantaine. Je ne saurais pas dire le chiffre exact de livres que j'ai adorés et partagés. Alors, il y en a un que j'ai partagé particulièrement parce que c'est mon livre de référence. C'est « Les yeux dans les arbres » de Barbara Kingsolver. Ça se passe au Congo. C'est un évangéliste qui va s'installer avec sa famille. Il a 4 filles et sa femme. Et c'est au moment de l'indépendance. Et donc, en même temps, on voit ce passage-là, le rapport des colons avec les Africains. On voit, par plein de pères dieux, par 4 pères dieux, et différente, et c'est un livre formidable. J'ai dû le prêter, une cinquantaine de fois, l'acheter 10 fois, le faire partager à la médiathèque et ailleurs. Donc celui-là, c'est mon livre de chevet.
Voilà, c'était les libraires de la petite librairie, qui n'est pas si petite. Hein, c'est quand vous rentrerez dans cette librairie, je vous le souhaite d'y rentrer, vous verrez qu'elle n'est pas si petite. Et vous avez entendu qu'est-ce que c'est que les soucis d'une librairie généraliste. Et maintenant, notre agenda. Voilà, un agenda, notre agenda, c'est peut-être le vôtre aussi. Alors, papier, crayon, ça y est, vous êtes prêts ? Il y a toujours plein de choses qui se passent. Alors, petit rappel déjà, le 22 novembre, ça se passera la Géosphère, rencontre avec Colin Niel, qui a écrit des polars qui se passent en Guyane. Voilà, c'est publié aux éditions du Rouergue. Et puis le 24, nous les avions reçus la semaine dernière. Attention, remise du prix Joseph, le suspense va être levé. Le 24 novembre aussi, si vous n'êtes pas sur Montpellier, eh bien vous pourrez aller à la Nouvelle Librairie Sétoise pour rencontrer un scénariste de bande dessinée, Dobbs. Alors la rencontre aura lieu dans l'après-midi, de 15h30 à 17h30. C'est un Sétois, Dobbs, c'est son vrai nom, c'est Olivier Dobrenel, il est né à Sète. Et c'est un scénariste qui a repris notamment le personnage de Nicolas Le Floch, qui est après la littérature est passé à la série télé et maintenant arrive à la BD. Et puis, ce 24 novembre, il se passe plein de choses aussi. Si les prix, pour vous, ça compte pas, allez donc écouter Emmanuel Bayamaktam, qui a publié Arcadie aux éditions POL. Ça se passe au Grain des Mots à 19h. 28 novembre, la géosphère, là où se mêlent les eaux. Un livre qui nous parle des Balkans et du Caucase avec Jean-Arnaud Derrins et Laurent Gélin. La géosphère, c'est à 19h30. Peut-être prévenez que vous allez venir, c'est pas grand. Il faut un petit peu réserver si on veut être sûr d'avoir une place. Et puis on avait parlé aussi de Frédéric Paulin. Alors là, c'est un auteur publié chez Agulot, auteur de Polar, qui a écrit sur l'Algérie de 1992. Hein, c'était très chaud en Algérie. Et puis la France est quand même bien concernée par ce qui se passait en Algérie. Voilà. Et puis, voilà pour l'actualité. Après, ça va se calmer, parce que vous savez, les fêtes arrivent, donc les libraires, recevoir des écrivains et tout ça... Non, ils n'ont plus le temps. Il y a un gros travail de mise à jour du stock, de rangement, de ceci, de cela. Les cartons de livres ne cessent d'arriver et de repartir vides. Mais c'est un gros travail. Donc, les libraires ne sont pas très disponibles pour le reste. Par contre, il y aura quelques ateliers d'écriture, hein, si ça vous intéresse. Alors, vous pouvez aller voir du côté du Théâtre d'Eau, où il y a des partenariats qui sont développés autour des spectacles qui sont donnés au Théâtre d'Eau. Donc il y aura le 23 novembre et le 14 décembre, il y aura un atelier d'écriture sur l'écriture de monologues autour d'un spectacle qui a été donné au Théâtre d'Eau, le Paradoxe de Georges. Alors renseignez-vous auprès du théâtre, vous aurez tous les détails. Il y aura aussi au Théâtre d'Eau, pareil, alors là c'est le 2 décembre, un stage d'écriture créative, oula, l'utilisation de la réalité pour écrire de la fiction. Isabelle Giudicelli qui animera cet atelier. Pareil, renseignez-vous auprès du Théâtre d'Eau pour avoir tous les détails. Ce sont des ateliers qui sont payants, précisons-le quand même. Et puis il y aura aussi Claire Mussiol qui vous proposera un atelier d'écriture samedi 1er décembre et dimanche 2 décembre à Montpellier. Ça se passera un lieu qui s'appelle Les Amoureux de Candolle. Quel programme, hein, c'est 19 rue Lallemand. Et là, ce sera développer votre imaginaire pour retrouver une plume joueuse et joyeuse. Tout un programme, écrire dans la joie, c'est pas formidable ça. Voilà. Et puis, d'ici là, bonne lecture. C'est le moment ou jamais de fréquenter les librairies. Bon, elles sont un peu remplies, ça se bouscule un petit peu. Mais c'est là qu'on peut acheter des livres, offrir des livres, offrir des livres. Quelle belle idée. Non ? Vous n'aimez pas recevoir des livres ? Moi, si. Je vous souhaite d'en recevoir plein avec de formidables découvertes pour vos lectures dans les semaines qui viennent. Voilà. C'était la 8e émission de Lecture par tous, l'émission proposée par les collecteurs, avec à l'animation Marco Sorghine et à la technique Bruno Bertrand. Merci Bruno. À très bientôt. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.